spirituellement et physiquement, de vous apporter la nourriture, la parole qu'il a placée sur mes lèvres. Je veux dire merci aussi à notre pasteur qui, dans sa prière, a demandé au Seigneur de m'accompagner, d'être avec moi dans ce moment particulier, ce moment spécial. Pour moi, c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est un privilège que de prendre conscience, pauvre pécheur que je suis, d'être capable, par la volonté du Seigneur, de me présenter devant l'assemblée de son peuple et de vous dire que notre Dieu est bien vivant. De vous dire que notre seule et meilleure assurance dans la vie, notre seule et meilleure assurance dans la vie comme dans la mort, c'est notre Dieu. On ne me voit pas, j'ai l'impression. On ne me voit pas.
Effectivement, je ne te vois pas, l'homme de Dieu. Mais moi, je t'entends très bien.
Et là, on me voit.
Oui, tout à fait.
Merci. La paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. N'oublions pas,
Amen.
le salut est offert gratuitement à tous, frères et sœurs. Je ne pourrai jamais comprendre, je ne pourrai jamais m'expliquer moi-même comment le sujet que j'ai abordé, que je vais aborder, était déjà inscrit dans la pensée de notre pasteur. Et le titre du message de ce matin, c'est l'enseignement et la communication. L'enseignement et la communication. À ce compte, je vous demanderai de lire avec moi ce que je vais lire pour vous tous, cette partie de la parole de Jésus-Christ, de Dieu, dans le livre de Matthieu au chapitre 7. C'est la suite de mon dernier message. Matthieu, le chapitre 7, du verset 12 au verset 28. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Verset 28, quand Jésus finit de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme les spécialistes de la loi. Parole du Seigneur, que Dieu nous accompagne. Eh bien, chers amis, j'ai compris et j'ai exercé l'enseignement et la communication. Ce sont deux entités, deux ensembles qui ne se séparent jamais, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. C'est par là qu'arrive la transmission du savoir, la connaissance, le discernement. C'est tous des choses tributaires de l'attention qu'on apporte à l'enseignement et la communication. Il ne pourrait y avoir d'éducation sans l'importance de ces deux éléments. Et notre Dieu, dans sa grande et incompréhensible sagesse, est le premier à nous instruire et à nous éclairer par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quelle ardeur, quelle continuité, quand nous constatons avec quel amour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, a perpétré cette intensive activité qu'est l'enseignement. J'ai parcouru Matthieu dans son livre, dans son évangile. Et j'ai remarqué que Jésus-Christ a fait beaucoup, beaucoup de miracles et en même temps a pratiqué l'enseignement, grande activité de son ministère. Jésus n'a jamais cessé d'enseigner et en même temps d'accomplir des miracles. Si vous regardez dans Matthieu, vous verrez que depuis le sermon sur la montagne, Jésus a enseigné beaucoup et beaucoup et beaucoup de choses qui contiennent notre vie tout entière. Les béatitudes, le sel et la lumière, la loi, la colère, la convoitise, le divorce, les vœux. Jésus a enseigné la vengeance, l'amour envers les ennemis. Jésus a enseigné la façon de donner, la prière, le jeûne, l'argent. Jésus a aussi enseigné l'inquiétude. Jésus a enseigné de ne pas juger. Ce que nous retrouvons dans Luc 6, les versets 37 à 42. Mais ici, en ce qui nous concerne, à partir du chapitre 7 et du verset 12, Jésus aussi n'a pas manqué d'enseigner le chemin du ciel. On vient de lire la porte étroite versus la porte large. Et c'est ce qu'on appelle dans le langage régulier, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or, en réalité, c'est quoi? C'est quoi la règle d'or? Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent. C'est la règle d'or. Et pourtant, dans notre vie quotidienne, notre vie terrestre, nous ne faisons pas le bien que nous aimons et nous faisons bien souvent le mal que nous haïssons, que nous détestons. Alors Jésus l'a formulé ainsi pour nous rappeler que la règle d'or, c'est le fondement même, c'est l'image même de l'amour que Dieu nous manifeste chaque jour par sa compassion, par sa bienveillance, par sa bonté active. Et tout cela s'impose dans la règle d'or. Jésus a aussi enseigné comment porter des fruits. Au verset 15, dans Luc 6, les versets 43 à 45, comment porter des fruits. Frères et sœurs, nous devons être prudents à l'égard des prétendus prophètes. Parce que dans l'Ancien Testament, si vous vous rappelez, ils annonçaient seulement ce que le roi et le peuple voulaient entendre, en laissant croire que leur message venait de Dieu. Aujourd'hui encore, il en existe des prétendus enseignants avec des attitudes pieuses et qui pourtant sont motivés par l'argent, les honneurs, le pouvoir. En réalité, ce sont des gens qui donnent très peu de place à Christ de façon à pouvoir se tenir en avant. Dans les versets 21 à 23, nous constatons aussi comment Dieu nous demande comment construire sur le rocher. Les versets 21 et 23. Comment construire sur le rocher? La référence en Luc 6, les versets 46 à 49. En lisant attentivement la parole, construire sur le rocher, ça veut donc dire qu'au jour du jugement, c'est notre relation avec Christ qui va compter. C'est-à-dire l'avoir accepté comme sauveur, lui obéir, et ce sera ça l'important. On ne mérite pas la vie éternelle à cause du bon comportement et de l'intérêt pour la religion. Je vais le redire. On ne mérite pas la vie éternelle à cause du bon comportement et de l'intérêt pour la religion. Ce qui va compter et ce qui a toujours compté, c'est la foi en Christ, en esprit et en vérité. C'est ta relation personnelle avec lui Ceux-là qui parlent du royaume de Dieu et qui ne lui appartiennent pas forcément, je leur dirai que Jésus-Christ est plus intéressé par nos actes que par nos paroles. Ce que nous faisons ne doit pas être différent de ce que nous croyons. Et ce jour-là, c'est le jugement dernier. Le péché sera jugé et la foi sera récompensée. J'ai lu le sermon sur la montagne et j'ai remarqué qu'à la fin, il y a deux choses à signaler. La volonté de construire et la connaissance des enseignements de Jésus. Encore une fois, c'est la foi en Christ qui comptera lors du jugement. Quand on parle de la porte étroite, la porte qui mène à la vie, cela ne signifie pas qu'il est difficile de devenir chrétien, mais cela signifie plutôt qu'il y a un seul chemin qui conduise à la vie éternelle avec Dieu. Et que seulement, il n'y en aura pas beaucoup, seulement quelques-uns ont décidé de l'emprunter. Surtout, rappelez-vous que par la foi et par la foi seulement, Jésus est le seul moyen d'accéder au ciel. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, comme vous le savez, afin de nous rendre justes aux yeux de Dieu. Et c'est ça que la parole appelle le chemin sûr et le chemin rassurant. Le chemin sûr et le chemin rassurant. L'enseignement de Jésus nous fait mûrir et nous fait avancer dans la clarification des paraboles, car Jésus savait utiliser des paraboles que même ses disciples, parfois, en étaient abasourdis. D'ailleurs, celui qui parle du royaume de Dieu ne lui appartient pas forcément. Pourquoi? Parce que, je le répète, Jésus est beaucoup plus intéressé par nos actes que par nos paroles, frères et sœurs. Nos agissements doivent être en harmonie avec ce que nous croyons. Quand nous suivons Jésus, dites-vous bien que les effets n'en sont pas toujours immédiatement visibles. Mais croyons au moins que cela aura un impact sur notre destinée éternelle. Question. Dans quelle mesure notre vie reflète-t-elle des enseignements donnés par Jésus? Le temps passe rapidement et la vie est courte. Au point que certains pensent que la vie n'est qu'une vallée obscure. Oui, nous voulons construire sur le rocher, c'est-à-dire écouter, réagir. C'est par la pratique de l'obéissance que nos fondements, nos fondations seront renforcés et qu'il nous sera permis de faire face aux circonstances pénibles de la vie. Nous sommes en train de traverser une circonstance pénible, déjà plus d'une année. C'est une circonstance douloureuse parce que nous n'arrivons pas à nous adapter, parce que Dieu fait bien tout ce qu'il fait, parce que ce virus que nous confrontons depuis déjà plus de 13 mois C'est un virus qui a la facilité de se transformer, de se changer en d'autres virus. Ce sont donc des mutants qui ne sont pas faciles à cerner, qui ne sont pas faciles à vaincre, et pourtant, Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est présent. Nous comptons sur lui, et rien que sur lui, parce qu'il est le souverain maître de toutes choses. Nous comptons sur lui et sur lui uniquement pour pouvoir nous garder loin des embûches du malin, des pièges du tentateur, pour pouvoir écarter loin de nous tous ces maux, toutes ces maladies, toutes ces douleurs, toutes ces inquiétudes, et pour pouvoir nous permettre, par le fait même de sa volonté, par le fait même de sa main puissante, de sa main bénissante, de sa main grandissante, de nous permettre de pouvoir vivre dans la paix, sa paix, sans inquiétude, sans stress, et surtout sans malheur. Il y a beaucoup de gens, comme nous le voyons dans Jacques, chapitre 1er, les versets 22 à 27, il y a bien des gens qui construisent encore sur des terrains fragiles, sur des terrains meubles, mais vous savez, sans vouloir être prophète de malheur, ils connaîtront la destruction de leur maison. Non par esprit de rébellion, mais surtout et surtout par manque de discernement, de connaissance, par manque de réflexion. Alors que Dieu a des méthodes que je dirais inhabituel pour transmettre son message aux hommes. Posons-nous la question, pourquoi les hommes refusent-ils encore, au moment même où on se parle, de se soumettre à la parole, à la connaissance et à la puissance de Dieu? On a vu, même dans l'Ancien Testament, comment Dieu s'était adressé à Belshazzar dans Daniel chapitre 5, les versets 5 à 9. Comment Dieu s'était adressé à Balaam par l'intermédiaire d'une ânesse qui parle. Incroyable. Nombre 22, versets 21 à 35. Comment il a parlé à Jonas, alors que Jonas venait de se faire avaler par le poisson. Il a parlé à Abraham, à Moïse. Deutéronome 8, le verset 3 et 4. Jésus, à son baptême, Dieu lui a parlé. À Paul, sur le chemin de Damas. Encore, pour ne pas l'oublier, à Moïse, Exode 3, verset 2, le buisson ardent. Et comment Dieu nous parle-t-il à nous? Dieu nous parle, Dieu nous a parlé par le Fils, par son Fils, le Fils de Dieu. Hébreux chapitre 1er, les versets 1 et 2. Écoutez, frères et sœurs, la faveur de Dieu n'engendre pas automatiquement le succès ou la renommée. Oui, certes, il accorde à Marie l'honneur d'être la mère du Messie. Mais rappelez-vous, cette bénédiction en même temps lui a valu beaucoup de souffrances. Ses contemporains s'étaient moqués d'elle. Son fiancé avait hésité à l'abandonner. Et Marie a vu son fils rejeté et tué. Jésus est bien ressuscité. Il représente le seul espoir pour le monde. On l'a vu, paradoxalement, avec Marie, sa mère, au fil des générations. Mais on avait fait l'éloge de Marie. Nous devons essayer de nous ouvrir l'esprit pour comprendre ce que cela veut dire. Que tout cela faisait partie du plan de Dieu pour notre salut. Et la résultante est vraie, c'est que quand le chagrin nous accable, nous chrétiens, quand le chagrin nous accable et atténue notre espérance, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons attendre patiemment que Dieu nous parle. Dans le livre des Proverbes, nous remarquons comment bien apprendre permet de bien enseigner. Et pour faire une parenthèse, bien enseigner aux élèves, je sais de quoi je parle puisque j'y suis resté pendant 30 ans. Il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à parcourir. Parce que dans une classe, s'il y en a un qui n'est pas intéressé, qui refuse